Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 22 janvier 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Le Parlement de la République islamique d'Iran envisage d'inscrire les armées des pays européens sur la liste des terroristes. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'action anti-CGRI du Parlement européen s'inscrit dans la guerre hybride contre le peuple iranien. Déclaration des chefs des trois pouvoirs de la République islamique d'Iran. Auto-da-fé du Saint-Coran à Stockholm, les condamnations affluent depuis le monde musulman. Et puis le président de la Douma russe en visite à Téhéran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. De hautes autorités iraniennes ont critiqué le Parlement européen pour avoir mis sur la liste noire le corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran. Les chefs des trois pouvoirs iraniens, à savoir exécutif, législatif et judiciaire, ont estimé lors de leur réunion hebdomadaire que la récente décision du Parlement européen d'inscrire le CGRI sur la soi-disant liste européenne du terrorisme s'inscrit dans la guerre hybride contre le peuple iranien et la République islamique. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a déclaré que de telles initiatives dangereuses visent à mettre en cause le rôle efficace et crucial joué par le corps des gardiens de la révolution islamique contre les terroristes dans la région. Le président Raisi a déclaré que les ennemis tentent de mettre en cause une grande partie du système au pouvoir en Iran en raison de ses succès et de ses réalisations. Mais ils finiront par échouer. Il faisait référence à une résolution émotionnelle et inconsidérée dans laquelle les législateurs européens ont appelé jeudi à la désignation du CGRI comme groupe terroriste. Les chefs de trois pouvoirs iraniens, toujours lors de la réunion, ont salué la perspicacité et le rôle conscient du peuple iranien qui a toujours conduit à l'échec des machinations des ennemis dans leur guerre médiatique, psychologique et économique contre la révolution islamique et ses réalisations. Cela survient alors que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont sur le point de discuter du renforcement des sanctions contre l'Iran la semaine prochaine. Réagissant aux évolutions destructives, le président du Parlement iranien a promis des mesures réciproques immédiates. Sachez également que le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a réagi à l'action anti-CGRI du Parlement européen. En réaction à la décision anti-iranienne du Parlement européen à avoir adopté jeudi une résolution appelant à mettre le CGRI sur la liste noire, le ministre iranien de l'Intérieur a déclaré que l'Union européenne serait sans aucun doute la principale perdante de cette décision imprudente. La décision prouve la chute du rationalisme, de la politique et du réalisme parmi les États européens, a souligné Vahidi. Il a en outre noté que fermer les yeux sur la lutte du CGRI contre les groupes terroristes Takfiri renforcera davantage les terroristes. Plus tôt, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a qualifié les pays occidentaux de « club mondial des terroristes », ajoutant que le club déteste le CGRI parce qu'il est la plus grande entité antiterroriste au monde. Autodafé du Coran à Stockholm, les condamnations affluent depuis le monde musulman. Les condamnations affluent depuis le monde musulman suite à l'autodafé d'un exemplaire du Saint-Coran par un politicien extrémiste suédo-danois à Stockholm. Réagissant à cette énième offense islamophobe faite aux valeurs islamiques, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que ce geste est un exemple clair de l'incitation à la haine et à la violence contre les musulmans. Nasser Kanani a critiqué les autorités suédoises pour avoir autorisé la profanation du livre saint de l'islam, blessant honteusement les sentiments de près de 2 milliards de musulmans. Il a déclaré que de tels actes sacrilèges ne peuvent être justifiés sous faux prétexte de défendre la liberté d'expression. La Turquie a également critiqué dans les termes les plus vifs le vil outrage contre le livre saint des musulmans, affirmant qu'une visite prévue du ministre suédois de la Défense dans le pays a été annulée. Pendant ce temps, le Pakistan a déclaré que l'acte provocateur islamophobe avait blessé les sentiments des musulmans du monde entier. Le Koweït a également qualifié cette action blasphématoire de provocation grave, exhortant la communauté internationale à œuvrer pour mettre fin à de telles actions. L'Arabie saoudite a appelé au dialogue, à la tolérance et à la coexistence tout en rejetant la haine et l'extrémisme. Les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie et l'Égypte ont également condamné cette décision. L'Organisation de la coopération islamique l'a qualifié d'acte provocateur, insultant contre les valeurs islamiques. Le mouvement de la résistance libanais Hezbollah et le mouvement de la résistance islamique de la Palestine Hamas ont également condamné cet acte sacrilège du politicien extrémiste suédo-danois à Stockholm. Les autorités suédoises avancent des allégations telles la liberté d'expression pour justifier l'autorisation d'un tel acte de provocation islamophobe qui vise systématiquement les musulmans et insulte leurs valeurs sacrées. Le ministre iranien des Affaires étrangères, lors d'une rencontre samedi avec le conseiller principal du président syrien Bachar Assad, a qualifié de stratégique et de pluridimensionnel les relations Téhéran-Damas en progression dans divers domaines, conformément à la volonté des hautes autorités des deux pays. Madame Boussaina Shaban, la conseillère principale du président syrien, en visite à Téhéran à la tête d'une délégation pour participer au premier congrès international des femmes d'influence, s'exprimant lors de la rencontre, a considéré les relations entre les deux pays comme privilégiées avant de s'attarder sur la diplomatie culturelle et la coopération bilatérale dans le domaine des femmes. La conseillère principale du président syrien, brossant un tableau positif de la tenue réussie du premier congrès des femmes d'influence en Iran, a salué l'initiative de la République islamique d'Iran à cet effet et les progrès du pays pour la promotion des droits de la femme. Toujours lors de la rencontre, outre l'échange de vues sur les derniers développements liés aux relations bilatérales, la situation dans la région et la coopération entre les pays amis et voisins ont été discutées. Le président de la Douma russe, Vyacheslav Viktorovitch Volodine, se rendra à Téhéran pour participer à la troisième commission de coopération parlementaire entre Téhéran et Moscou. selon l'IRNA, depuis l'agence ITARTAS, le président de la Douma russe se rendra à Téhéran pour une visite de 2 jours à la tête d'une délégation officielle pour discuter des accords commerciaux bilatéraux, des investissements et de la coopération entre les deux pays dans le secteur de l'énergie avec les responsables de la République islamique d'Iran. Selon l'agence de presse TASS, une délégation de la Douma russe se rendra en Iran les 22 et 23 janvier pour une visite officielle et les chefs des commissions parlementaires de ce pays accompagneront Volodine lors de son déplacement en Iran. Le président de la Douma russe doit rencontrer Mohammad Borel Ghalibov, président du Parlement iranien, et d'autres autorités de haut rang iraniennes à Téhéran. La 3e commission de coopération entre les parlements de la République islamique d'Iran et de la Russie est prévue lundi à Téhéran, soit le 23 janvier. Au menu, les échanges de vues sur l'élargissement des relations commerciales Téhéran-Moscou et l'accélération de la mise en œuvre des accords bilatéraux entre l'Iran et la Russie, notamment dans les domaines des transports, des investissements et de l'énergie. Alors que la 34e édition de la Foire internationale du livre de Téhéran doit se tenir dans la capitale iranienne Téhéran dans les prochains mois, les organisateurs de l'événement se préparent pour l'inscription des éditeurs étrangers pour la section internationale de l'événement culturel. Le vice-ministre de la Culture et de l'Orientation islamique d'Iran, Yasser Ahmadvand, a déclaré samedi que le salon du livre devrait se tenir du 10 au 20 mai. Il n'est pas encore clair si les expositions physiques et virtuelles se tiendront en même temps comme lors de la période précédente ou s'il y aura un décalage temporel entre ces deux événements culturels afin que les éditeurs puissent mieux profiter de cette opportunité. L'inscription des éditeurs étrangers souhaitant participer à la 34e Foire internationale du livre de Téhéran a commencé depuis le 10 décembre 2022 et se poursuit jusqu'au 19 février. Le délai prévu pour l'inscription des éditeurs pour participer au Salon international du livre de Téhéran est sans précédent par rapport aux 33e éditions précédentes. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le Parlement de la République islamique d'Iran envisage d'inscrire les armées des pays européens sur la liste des terroristes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a tweeté « Le Parlement iranien peut inscrire les armées des pays européens sur la liste des groupes terroristes ». Dans un tweet émis ce dimanche, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a écrit « Aujourd'hui, j'ai assisté à la séance à huis clos du Parlement. En présence du général Salami, commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique, les députés ont apprécié les efforts du CGRI pour assurer et maintenir la sécurité nationale de notre pays. » En contre-mesure, le Parlement envisage d'inscrire les armées des pays européens sur la liste des groupes terroristes, a-t-il ajouté. Amir Abdollahian a également annoncé que le retrait de l'Iran du TPP serait également envisageable si la position de l'Europe n'est pas corrigée. Selon les déclarations du président tournant de l'Union européenne, les Occidentaux ne cherchent pas à mettre en œuvre cette résolution. Mais si l'Europe ne change pas ses positions, la possibilité de prendre toute éventuelle contre-mesure appropriée est envisageable, a prévenu le très haut diplomate iranien. Le président du Parlement iranien, Mohammad Borel Ghalibaf, intervenant, a déclaré que l'Assemblée consultative islamique d'Iran prendrait des contre-mesures immédiates et décisives à toute action impliquant l'inscription du CGRI sur la liste des groupes terroristes ou des listes sanctionnées, ayant d'avertir qu'en cas de la mise en œuvre de l'action contre le CGRI, l'Iran déclarera les armées des pays européens dans la région comme des groupes terroristes. Le Parlement européen a adopté jeudi une résolution appelant à ce que le corps des gardiens de la révolution islamique iranien soit reconnu comme un groupe terroriste. Le ministre iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué la résolution, le qualifiant de destructive et de contraire à la charte de l'ONU. Selon le président Raisi, classer le corps des gardiens de la révolution islamique par le Parlement européen parmi les organisations terroristes est le résultat de la faiblesse et de l'impuissance suite aux efforts infructueux visant à cibler le peuple iranien dans les rues afin d'arrêter ce peuple et ses progrès et réalisations.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de débat. Une fois encore, les pays européens, le Parlement européen ont pris une décision anti-iranienne et se sont tirés une balle dans le pied. En effet, il y a eu une résolution du Parlement européen contre les gardiens de la révolution islamique, le corps des gardiens de la révolution islamique, le désignant ainsi dans la liste noire des terroristes du Parlement européen. Une action qui va bien sûr leur faire regretter, les Européens, surtout certains pays européens qui ont soutenu les émeutiers en Iran depuis le début des troubles, il y a presque 3-4 mois de cela. Mais ce n'est pas la première fois. Durant toutes ces dernières années, les pays européens, notamment certains d'entre eux, n'ont cessé de soutenir la détérioration de la sécurité et de la situation en Iran et ont plaidé pour un changement de régime en ce qui concerne leurs décisions et leurs objectifs. Afin de parler et afin d'évoquer ce sujet, nous avons invité deux experts, deux analystes des questions internationales. Le premier, il s'agit de Maître André Chamy, qui est juriste international et qui est avec nous en direct depuis Alsace. Également Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour messieurs et merci d'être avec nous pour ce débat, pour cette émission où nous allons évoquer la question iranienne, mais surtout les prises de position occidentales vis-à-vis de l'Iran. Maître Chamy, si vous voulez bien, je commence avec vous. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce débat. Dans un premier temps, Maître, comment interprétez-vous la prise de position et cette démarche européenne contre le corps des gardiens de la révolution islamique ?
Bonjour à vous, bonjour à, ainsi qu'à M. Michel. Pour démarrer mon propos, je vous dirais qu'on est aujourd'hui dans la posture, c'est devenu une sorte d'habitude chez certains politiciens en Europe, c'est d'avoir la posture d'eurodolomiste, c'est-à-dire être le prétendant à la défense des droits de l'homme, mais en réalité sans savoir ce que cela, je dirais, signifie et ce que cela implique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai envie de vous dire, le Parlement européen n'est pas un organe décisionnaire. Ils peuvent soumettre des motions, mais ces motions-là n'auront pas d'impact sur le plan pratique, sur le plan politique. C'est une décision que j'appellerais un vœu pieux, mais la décision appartient aux, ce qu'on appelle aux instances exécutives, c'est-à-dire soit aux États, soit à la Commission européenne, ce qui n'est pas encore le cas. Mais il ne faut pas l'exclure. Tout est possible, mais derrière tout ça, il y a une volonté indiscutable de faire monter en quelque sorte les tensions. Parce que aujourd'hui, les premiers à avoir couvert, ce n'est pas un hasard, à avoir couvert cette information-là, c'est I-24. c'est la chaîne israélienne.
Oui.
Et évidemment, vous avez les Américains qui poussent derrière pour leur montrer que vous avez la possibilité de tout faire. Et il y a également les moujahidis du peuple ou les menteurs du peuple qui sont aussi derrière ce groupe de pression qui aboutit à un moment donné à obtenir ce type de vote parce que il faut le reconnaître qu'ils pratiquent le lobbying et ce lobbying leur permet d'accéder avec leur lobby au sein du Parlement européen et au prétexte de défendre les droits de l'homme en Iran, bien entendu, on s'en prend à qui ? Même pas aux forces de sécurité, on s'en prend aux gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, en précisant particulièrement le régiment Al-Quds, qui était dirigé jusqu'à son martyr par le général Soleimani. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est ce corps-là qui a défendu les grandes valeurs, au contraire, de l'humanité dans tout le Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit au Yémen, et bien entendu en Palestine. Évidemment, toutes ces questions-là qui se trouvent à l'opposé même de la politique américaine et de la politique israélienne. Et évidemment, ceux qui se sont opposés à la politique américaine ou sioniste doivent en payer le prix. Et on commence aujourd'hui à en voir en quelque sorte la manifestation à travers ces décisions-là. Mais cette volonté a toujours existé. Rappelez aussi, par exemple, les boycotts ou en tout cas les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la compagnie Mahan. Mm-hmm. C'était parce que c'était la compagnie qui appartiendrait aux gardiens de la Révolution ou qui transporterait les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire le fait de viser les gardiens de la Révolution a toujours existé. Et évidemment, à ce moment-là, ils commencent par viser des personnalités et maintenant, ils mettent le pied dans le plat en disant « Eh ben, on vise tous les gardiens de la Révolution ». Mais aujourd'hui, si cette motion ou ce vote insignifiant devait se transformer en décision exécutive, là, ça deviendrait plus croustillant, si j'ose dire, parce que l'Iran se trouverait totalement détaché de toute possibilité de lien avec l'Europe, parce que là, c'est une question de souveraineté. C'est l'un des corps de l'armée, c'est comme si vous disiez, c'est le 35e régiment de l'armée française qui est sanctionné. Et à partir de là, évidemment, la France pourrait prendre une décision contre ceux qui prendraient une telle motion. Et là, l'Iran aurait à ce moment-là toutes les possibilités de prendre des décisions contre des forces armées, contre des chefs militaires, etc. etc. C'est-à-dire on va monter crescendo avec des conséquences qui peuvent être très néfastes, y compris sur le plan relationnel, c'est-à-dire il y aura même des possibilités de rupture relationnelle entre certains États parce que cette situation ne peut pas être acceptée par un État souverain contre lequel on prend ce type de décisions qui sont directement liées à sa politique intérieure et à sa souveraineté et à son indépendance.
Merci pour vos explications, Maître. Restez en ligne. Luc Michel, vous avez entendu les explications de Maître Chami en ce qui concerne ces prises de position, ces décisions, cette décision qui n'est pas nouvelle. Vous, quel regard portez-vous sur cette décision du Parlement européen, Luc Michel ?
Tout d'abord, bonjour et je partage tout à fait ces remarques. Il y a trois choses à dire pour moi sur cette décision. Tout d'abord, c'est que l'Union dite européenne, elle n'est qu'un appendice, le bras politique de l'OTAN. Elle est entièrement sous suggestion américaine. C'est une colonie yankee. Déjà à l'époque des accords de Genève en 2015, vous vous souvenez peut-être que Mme Mogherini était venue en visite à Téhéran. C'était la représentante diplomatique de l'Union européenne. Elle espérait les marchés iraniens comme une bulle d'oxygène économique pour l'Union européenne. Mais sur la pression américaine, évidemment, les Européens ont dû faire marche arrière. Opel a cédé le marché iranien et Total a abandonné le marché iranien du pétrole. Il a cédé ses champs pétroliers à évidemment, la Chine. La deuxième chose, c'est que le Parlement européen, qui est l'un des parlements les plus corrompus au monde, y compris la corruption européenne, puisqu'on se rappellera par exemple que Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle a dû abandonner la politique allemande dans un scandale de rétrocommission et qu'aujourd'hui, le Parlement européen est saisi par une affaire de corruption avec le Qatar et le Maroc. Qu'est-ce qu'on retient de tout cela ? C'est que la politique de Bruxelles, elle est cadenassée par les ennemis de l'Iran. Il y a tout d'abord les moudjahidines du peuple, il y a les monarchistes partisans de l'ancien Shah d'Iran, mais surtout il y a les réseaux de Georges Soros. Ils sont tout puissants au Parlement européen et la Commission européenne, et ils font campagne, évidemment, contre l'Iran. Particulièrement samedi dernier, ils défilaient à Paris et la revendiquaient.
Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez ? Je pense qu'on a été coupé. Alors, le temps que mes collègues rétablissent la connexion avec Luc Michel, on va continuer avec Maître Chamy. Vous avez entre autres entendu les explications et l'analyse de Luc Michel, Maître. Mais à votre avis, quel est l'objectif ultime du Parlement européen à travers ce genre de décision ? On a eu l'accord nucléaire qui a été en fait terminé sans fin concrète. Après les entraves et les bâtons mis dans les roues de cet accord, de ces négociations par les États-Unis, mais aussi par la partie européenne, nous avons eu à maintes reprises des ingérences des pays européens dans les affaires iraniennes, surtout durant ces derniers mois avec les émeutes. Et quel est alors l'objectif ultime à travers toutes ces déstabilisations et ces positions ?
On ne peut pas dire qu'il y ait un objectif ultime. On peut dire que ça fait partie des remous qui est provoqué pour parler de ce qu'on appelle du régime iranien. Mais en réalité, ça n'a, encore une fois, ça n'a aucun impact sur le plan purement politique. C'est une décision que j'appellerais de principe, mais en réalité, ce n'est même pas une décision parce que c'est un vote autour d'une idée qu'il faudrait classer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Mais ce n'est pas le Parlement qui peut prendre une telle décision. Ça, c'est important. Mais comme l'a souligné M. Michel, il y a une difficulté majeure, je dirais. Quel crédit accorder, sinon quelle crédibilité accorder à cette institution qui est corrompue, c'est-à-dire qui est aujourd'hui, on le sait, éminée par la corruption et par le lobbying pharmaceutique qui est maintenant clairement établi, le lobbying au profit des États-Unis qui est clairement établi, le lobbying au profit d'un certain pays que l'on peut qualifier fantoche, parce que quand on parle de la démocratie par rapport au Maroc, quand on parle de la démocratie par rapport au Qatar, on a envie plus de rigoler, parce qu'il y a des institutions en Iran. On peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a des institutions démocratiques qui sont élues directement par le peuple, et le peuple participe à la désignation de ses députés, et à ses majorités, à ses oppositions, etc. Au Qatar, il n'y a rien. Et c'est la même chose au Maroc. Et on ose aujourd'hui donner des leçons de démocratie de la part de ceux qui sont corrompus par ces deux régimes. C'est-à-dire, nous sommes face à une ineptie, à une stupidité, pour ne pas dire une position unique, sinon unique dans le monde. Et ça, c'est, je dirais, l'observation que j'appellerais dominante. Mais derrière ça, quelle politique entamer ? Quelle politique envisager ? C'est-à-dire, vous prenez une décision qui classerait les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Vous allez les empêcher de voyager en Europe ? Mais qu'est-ce qu'on s'en moque ? Est-ce que les gardiens de la Révolution sont aujourd'hui à Paris ou à Londres ou à Bruxelles ou à Luxembourg ou à Berlin ? Les gardiens de la Révolution ont une mission qui est celle de la préservation de la nation iranienne. C'est-à-dire, ce n'est pas pour venir se balader en Europe, ce n'est pas pour avoir des placements en Europe et ce n'est pas pour avoir je ne sais quel investissement dans les pays européens. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une stupidité, mais il faut arrêter ces postures qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'impact. Ce sont des postures tout simplement belliqueuses, c'est-à-dire on cherche la bagarre. Quand on ne peut pas assumer cette bagarre-là, à ce moment-là, il vaut mieux se taire. Ça me rappellerait un petit peu ce qu'a déclaré le ministre de l'économie français au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Or, aujourd'hui, c'est l'économie européenne qui est à genoux. C'est-à-dire, de temps à autre, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire et assumer les conséquences de ses actes et de ses propos. On ne peut pas dire que l'on va sanctionner les gardiens de la Révolution sans imaginer des contre-mesures. L'Iran est en mesure de prendre des contre-mesures. Je ne me prononcerai même pas sur ces mesures-là. Je laisserai ce soin aux autorités et au pouvoir iranien. Et par conséquent, ces gens-là qui n'ont aucune réflexion géopolitique, qui comprennent les relations, qui ne comprennent pas suffisamment, pour ne pas dire pas du tout, les relations internationales, c'est la raison pour laquelle, par exemple, ils n'ont pas exigé de leur propre gouvernement d'appliquer les accords sur le nucléaire, alors qu'ils estiment que leurs gouvernements sont engagés. Les États-Unis se sont retirés. Pourquoi? Eux, ils n'ont pas pris la décision d'exiger de leur gouvernement de respecter leur propre signature. Ils n'ont pas été, je dirais, dans le courage, pour ne pas dire dans l'audace, de prendre une telle décision-là. Par contre, pour venir nuire aux relations internationales et créer des situations géopolitiques stupides, évidemment, ils sont doués. Et aucun d'entre eux, je peux dire, mais en l'affirmant, aucun d'entre eux n'a une véritable réflexion géopolitique sur la situation. Et ces vœux pieux n'ont pas de sens, si ce n'est de créer une situation qui va nécessairement créer des tensions. Et c'est cette tension-là impacterait d'abord l'Europe avant d'impacter l'Iran, parce que l'Iran n'a pas des intérêts particuliers à travers les gardiens de la Révolution, puisque l'Iran est déjà sous sanction en tant qu'État, en tant que pays. Qu'est-ce qu'on peut encore lui infliger comme sanction? Aujourd'hui, on a atteint le sommet, mais cela n'a pas empêché l'Iran d'évoluer, cela n'a pas empêché l'Iran de se développer, cela n'a pas empêché l'Iran d'avoir même la puissance nucléaire qu'elle a actuellement, ça n'a pas empêché d'avoir la puissance militaire. La qualité de ses scientifiques et son, je dirais, sa recherche scientifique dans beaucoup de domaines, et notamment, par exemple, dans la nanotechnologie, défiant ainsi toute l'Europe entière. Aujourd'hui, au lieu de prendre l'Iran comme allié ou en tout cas comme partenaire économique, scientifique, etc., on essaie de se remettre à dos, ce qui est sur le plan du raisonnement et de la réflexion une stupidité monumentale, mais sur le plan pratique, ça n'a pas de sens et ça n'a aucun impact, si ce n'est de se faire valoir par rapport à ce que j'appellerais moi les autorités américano-sionistes.
Oui. Merci pour vos explications, maître. Restez en ligne. Je pense que la connexion est rétablie avec Luc Michel. Luc Michel, est-ce que vous êtes là?
Oui, oui. Les dieux de la technique n'étaient pas avec nous aujourd'hui, mais je suis
heureux. Merci encore d'être avec nous. Monsieur Michel, votre analyse n'a pas été complète, on a été coupé. Donc, je vous écoute en ce qui concerne votre point de vue sur cette prise de position européenne.
Mais je disais surtout que l'Union dite européenne est profondément corrompue. Vous savez, la vice-présidente du Parlement européen et deux députés européens, ils sont en prison depuis un mois, arrêtés par la police belge. Chez eux, on a saisi 1,5 million d'euros en liquide. 1,5 million, vous imaginez. Et ce sont ces gens qui donnent des leçons de démocratie et de moralité. C'est cela qu'il faut revenir. Les sanctions, c'est une posture. L'ancien président russe Medvedev a dit que les dirigeants de Bruxelles étaient idiots et incompétents. On sanctionne des gens, on les interdit de venir en Europe, on saisit leurs comptes, mais ces gens n'ont pas de bien dans l'Union européenne. On le fait pour les Russes, on le fait pour les Iraniens. On le fait pour des chefs d'État et des politiciens africains, évidemment. Tout cela, c'est une posture médiatique et qui vise à donner un vernis de démocratie. Dire que le Parlement européen condamne l'Iran, c'est faire croire que la démocratie occidentale est la démocratie occidentale. Tout cela n'aura aucun résultat. Maintenant, il y a une deuxième chose. Pourquoi est-ce que l'Union dite européenne, elle s'attaque à l'Iran parce qu'elle comptait sur l'Iran pour remplacer la Russie sur le marché européen du gaz et du pétrole. Or, les Américains disent justement que l'Iran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans le domaine du gaz. L'Iran a empêché la Russie de perdre le contrôle du marché du gaz en Europe. Et évidemment, les policiers européens, qui sont des créatures américaines, ce sont des agents yankees. Moi, je les appelle des prostituées yankees. Eh bien, ce sont ces gens qui sont au pouvoir. Des gens comme on demandait Charles Michel, Louis Michel, Ursula von der Leyen, etc.
ce sont des gens qui ont eu des problèmes dans leur pays, où ils ont déjà été des gens incompétents ou corrompus, et maintenant ils agissent au sommet de l'Europe. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces gens-là. Vouloir accuser les Moudjahs dites du peuple d'être démocrates et les gardiens de la révolution, d'être terroristes, c'est ne pas, comme le dit Maître Chabi, connaître la géopolitique du Proche-Orient, puisque les gardiens de la révolution sont une dicote de terrorisme.
Mais Monsieur Michel, merci pour vos explications, mais à votre avis, quelles en seront les prochaines étapes de ces actions anti-iraniennes, mais aussi les ripostes iraniennes, parce que la partie iranienne, les députés iraniens ont souligné que cette décision et cette démarche européenne ne restera pas sans réponse.
Écoutez, la situation sur l'Iran, c'est la même que sur la Russie. Il y a une marche jusqu'au boutisme des dirigeants européens. Il faut écouter les discours de tous ces gens. Charles Michel, Macron, Ursula von der Leyen et compagnie. Je pense donc qu'ils vont arriver à ce qu'il y ait une condamnation des gardiens de la Révolution par la Commission européenne qui est la seule compétente. Le résultat simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran ne se laisse plus faire et on n'est plus en train de sanctionner des petits États comme la Libye, l'Irak de Saddam Hussein ou encore des États africains. On est en train de sanctionner des grandes puissances comme la Russie et l'Iran. Et ceci rend coup pour coup. Il y aura donc une réponse, évidemment, dans cette affaire. Et cette affaire, elle va être dommageable pour l'Union européenne. La crise, évidemment, va s'aggraver encore plus en Europe. C'est à cela qu'il faut constater. Mais le grand géopoliticien européen, le général autrichien Jordi von Lausen, qui aujourd'hui est décédé, au moment des guerres de Yougoslavie, a fait émis une thèse. Il avait dit que la participation des politiciens européens atlantistes aux guerres américaines en Irak, en Yougoslavie, au Proche-Orient, c'était une trahison des intérêts fondamentaux des peuples européens à leur terme. Nous vivons le deuxième épisode de cette thèse.
Merci Luc Michel. Maître Chami, vous, à votre avis, quelles seront les prochaines étapes de ces actions anti-iraniennes, mais également la réponse iranienne?
Écoutez, d'abord, il faut qu'il y ait une décision que j'appellerais exécutive. Pour l'instant, il n'y en a pas. Par conséquent, l'Iran se considère que c'est un acte médiatique qui n'a aucun impact. Le jour où cette motion ou cette déclaration se transforme en acte exécutif de la part des gouvernements européens ou de la part de l'Union européenne, la question se poserait autrement et je n'ai pas, si j'ose dire, les qualités nécessaires pour prendre la décision à la place du gouvernement iranien et par rapport aux institutions je n'ai pas les compétences nécessaires pour prendre la place des institutions iraniennes pour décider des mesures qui pourraient être prises. Mais je sais qu'il y a ce que j'appellerais une panoplie de décisions qui pourraient être prises et qui viseraient aussi bien des institutions européennes que des personnalités européennes et qui seraient directement visées et sanctionnées par la République islamique d'Iran, j'ai envie de dire, qui ne gardera pas ses mains dans ses poches et aura la main lourde même pour infliger ses sanctions contre ceux qui ont osé s'en prendre à sa souveraineté et à son indépendance.
Merci pour vos explications, Luc Michel. Nous avons moins de 2 minutes devant nous. Le mot de la fin est à vous.
Le plus intéressant, c'est le projet iranien de sanctionner les chefs d'état-major des armées européennes, de les poursuivre pour terrorisme. Évidemment, l'Iran montrera qu'il est intransigeant dans sa souveraineté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des peuples du monde. Les peuples du monde en Inde, en Chine, au G20, à l'Organisation de Convention de Shanghai, ils constatent que les Occidentaux n'ont plus de légitimité, que ce sont des fous dangereux. Évidemment, l'Iran va ajouter une pièce à cette position du reste du monde. Aujourd'hui, le bloc américain occidental, c'est 18% de la population et des terres émergées mondiales. 82% sont contre eux. Voilà simplement la position de l'Iran ici. elle va renforcer la fin de la domination mondiale de l'Occident.
Merci à Luc Michel et André Chamy, juriste international, et Luc Michel, géopoliticien, qui était avec nous pour ce débat du jour. Nous avons évoqué l'actualité iranienne, notamment la dernière démarche du Parlement européen contre le corps des gardiens de la révolution islamique. Vous pourriez également revoir toutes les émissions, l'actualité du jour, sur notre site à l'adresse french.presstv.ir. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de l'Afrique économie, une émission durant laquelle nous allons réviser les principales informations et les principales actualités économiques du continent africain durant la semaine passée. Restez avec nous. De 200 acteurs des marchés financiers régionaux et internationaux sont attendus à Dakar au Sénégal du 24 au 26 janvier prochain pour se pencher sur des défis du marché des titres publics au cours de la 5e édition des rencontres du marché des titres publics de l'UMOA. Annoncée il y a quelques mois, la 5e édition des rencontres du marché des titres publics s'ouvre mardi 24 janvier prochain à Dakar en présidentiel pour la première fois depuis 2020. Cette assise annuelle sur le marché des titres publics se tiendra autour du thème « Diversité des investisseurs et officiance du marché des titres publics ». L'édition de cette année va réunir plus de 200 participants, notamment des assureurs, gestionnaires de fonds, banquiers, responsables de trésors publics nationaux, autorités économiques et régulateurs. Ceux-ci vont échanger pendant 3 jours sur les voies et moyens d'élargir la base des investisseurs aux entités non bancaires et sur les actions en faveur de l'approfondissement du marché des titres publics. Des panels sont prévus à cet effet et seront animés par plus d'une vingtaine d'acteurs des sphères régionales et internationales de la finance. Outre les échanges, sont prévus à cette rencontre des présentations, des focus sur les pays de l'UMOA, et des masterclass. La conférence sera également marquée par la présentation du programme des émissions de titres publics par adjudication de l'année 2023 aux acteurs du marché financier régional. Pour rappel, les États de l'UMOA ont levé 5 254,6 milliards francs CFA, 8,7 milliards de dollars sur le MTP en 2022 contre 5 551,5 milliards francs CFA collectés en 2021, ce qui traduit une baisse de 5%. En 2022, le géant énergétique italien Eni a recruté l'entreprise chinoise Wison pour construire un FLNG dédié au bloc marine 12, un contrat qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de monétisation des ressources gazières en place. La compagnie d'ingénierie chinoise Wison a officialisé mercredi 18 janvier le lancement des activités de construction de l'installation flottante de liquéfaction de gaz prévue sur le bloc pétrogazier Marine 12, conformément à l'accord qu'elle a paraphé avec l'italienne Eni en décembre 2022. La durée d'exécution des travaux n'a pas été précisée, mais une fois en service, l'ouvrage livrera une production de 2,4 millions de tonnes métriques de gaz liquéfié chaque année. L'infrastructure permettra par ailleurs d'accroître le plateau des volumes de gaz naturel produits à partir de Marine 12 et qui devrait atteindre 3 à 4,5 milliards de mètres cubes par an d'ici 2025. Cette nouvelle infrastructure est la deuxième unité flottante de liquéfaction de gaz qu'Eni va déployer au dévoilé en avril, le plan de la majeure pétrolière Eni Congo pour augmenter sa production de gaz se précise à l'issue d'un entretien avec le président Gesso, Claudio Descalzi, président directeur général de la compagnie italienne Eni, a fait des annonces importantes le 2 août à Brazzaville. Nous avons fait le point sur le projet d'exportation du gaz pour lequel nous avions signé un accord. Il débutera au quatrième trimestre de 2023 et donnera à terme la possibilité au Congo d'exporter près de 4,5 milliards de tonnes de mètres cubes de gaz, a révélé à la presse Claudio Descalzi, ajoutant que dans le cadre de cette coopération dynamique, plusieurs dossiers s'inscrivant dans la droite ligne du plan national de développement étaient en train d'émerger.
Avec la transformation numérique, les entreprises africaines ont besoin de plus de capacités pour soutenir leur activité. Les entreprises locales et étrangères multiplient les investissements dans la construction de centres de données pour mieux répondre à la demande croissante sur le continent. Africa Data Centers, une filiale de Casava Technology Group spécialisée dans la construction et l'exploitation des données, a annoncé le jeudi 19 janvier avoir entamé la construction d'un centre de données supplémentaire à Nairobi, au Kenya. La nouvelle infrastructure devrait être achevée au premier trimestre 2024. Elle permettra d'élargir l'installation actuelle d'ADC en y ajoutant jusqu'à 15 MW de charge informatique supplémentaire. Nous pensons que les centres de données joueront un rôle important dans la transformation numérique et la croissance économique sur notre continent. Sans eux, la poussée vers une économie numérique en Afrique manquera d'un pilier essentiel. Notre décision d'augmenter nos investissements dans nos centres de données au Kenya est une reconnaissance de la position que le pays occupe désormais en tant que leader dans l'adoption des technologies numériques en Afrique, a déclaré Hardy Peinwa, président directeur général de Casava Technology. C'est en décembre dernier qu'Africa Data Centers a annoncé son intention d'agrandir son installation de Samir à Nairobi en y ajoutant un nouveau centre de données. La société veut répondre à la demande croissante de ses services dans un contexte marqué par l'augmentation des croissantes des services de l'adoption de services numériques en Afrique de l'Est. La société poursuit ainsi sa stratégie d'expansion africaine selon laquelle elle prévoit d'investir 500 millions USD pour construire des centres de données dans une dizaine de pays africains. La mine d'or Yama fait partie des principaux contributeurs à la production d'or au Mali. Alors que le gisement principal est presque épuisé, les travaux d'exploration menés ces dernières années permettent à l'Australien Resolute de continuer l'exploitation sur le site jusqu'en 2033 au moins. Au Mali, les ressources minérales du gisement nord de la mine d'or Yama totalisent désormais 34 millions de tonnes tirant 2,9 grammes par tonne d'or pour 3,18 millions d'onces. C'est ce qui ressort de la mise à jour publiée le jeudi 19 janvier par l'Australien Resolute Mining, propriétaire de la mine d'or Yama, qui précise qu'il s'agit d'une hausse de 58% par rapport à l'estimation d'août 2022. Alors que le gisement principal de la mine devrait s'épuiser d'ici la fin de l'année, Yama Nord a le potentiel pour soutenir une nouvelle exploitation à ciel ouvert sur le site. La majorité des ressources minérales est en effet située à moins de 150 mètres sous la surface. Notons que l'étude de préfaisabilité lancée pour évaluer les aspects économiques liés à l'exploitation du gisement Yama Nord est attendue dans les prochains mois. Des découvertes significatives comme celle-ci démontrent clairement que la ceinture de Yama est étonnamment sous-explorée et justifie la nécessité d'entreprendre d'autres travaux d'exploration systématique, a ajouté Terry Olohan, PDG de la compagnie. Pour rappel, Yama a annoncé en mars 2022 pouvoir continuer de produire de l'or au Mali jusqu'en 2033 au moins.
une estimation qui pourrait être revue à la hausse grâce aux récents succès dans nos travaux d'exploration. Le Niger souffre d'un manque d'enseignants dans les matières scientifiques. Ce déficit, qui porte atteinte au système éducatif, touche en priorité les établissements d'enseignement secondaire des zones rurales dans le cycle franco-arabe. Le Niger va lancer un institut spécialisé dans la formation des enseignants de matières scientifiques. Le Conseil des ministres, présidé le jeudi 19 janvier par le président Mohamed Bazoum, a adopté un projet de loi portant création d'un institut baptisé Institut franco-arabe de pédagogie. Cet institut est une réponse du gouvernement au déficit d'enseignants dans les matières scientifiques. Au Niger, l'enseignement secondaire souffre d'un déficit chronique en enseignants dans les matières scientifiques. Cet état de fait se traduit par l'inexistence des séries scientifiques dans plusieurs complexes d'enseignement secondaire ruraux, a indiqué le communiqué du Conseil. L'Institut franco-arabe de pédagogie implanté à Taoua proposera un cursus de licence professionnelle visant à donner aux apprenants les compétences pour enseigner les matières scientifiques dans les établissements secondaires. L'Institut va recruter les étudiants bacheliers issus de la série D. Cette nouvelle décision traduit la volonté du gouvernement du Niger de s'investir dans la formation des formateurs pour rehausser la qualité de son système éducatif. Il y a quelques jours, il a signé un accord avec un syndicat des travailleurs du sous-secteur de l'enseignement professionnel. Cet accord prévoit la mise en place d'une école nationale spécialisée dans la formation des formateurs de l'enseignement technique et professionnel.
Thank you.